L'esprit critique. Mediapart.
À la rentrée de janvier, sont parus pas moins de 4 essais s'interrogeant sur les pouvoirs de la littérature et ses rapports avec la politique et l'engagement. Contre la littérature politique, d'un collectif d'écrivains paru à La Fabrique, Défervoir, littérature et politique, signé Sandra Lucbert et publié chez Amsterdam, Littérature et révolution de Kaoutar Archi et Joseph Andra, sorti aux éditions Divergence, et enfin l'abrégé de littérature Molotov de Mashko Dragan aux éditions Terre de Feu. Un livre exigeant, publié en ce printemps aux éditions La Fabrique, signé Florent Coste et intitulé « L'ordinaire de la littérature, que peut encore la théorie littéraire », prolonge la réflexion tout en la déplaçant vers le champ des théoristes, celles et ceux qui font métier d'analyser la littérature. Quelle piste alors explorer pour que la politique de la littérature soit autre chose qu'une promesse vaine ou une expression datée ? Pour tenter de répondre à nouveau frais à cette question pas vraiment neuve, j'ai le plaisir de recevoir Florent Coste en compagnie de Lise Wajmann, qui avait proposé une recension des 4 essais que je viens d'évoquer dans les colonnes de Mediapart, et qui a elle-même écrit un texte intitulé « Ce que peut encore la littérature », avec pareil des parenthèses sur « encore », dans un numéro plus si récent de la revue du Crieur. Bonjour à tous les deux.
Bonjour. Bonjour.
Alors, j'aimerais avoir votre sentiment sur un sentiment que j'ai en ce moment et qui est peut-être juste un effet de chronologie, mais ce sentiment que la littérature et celles et ceux qui la théorisent ou l'écrivent semblent se poser particulièrement en ce moment la question de ses effets, de sa puissance et de ses impuissances. Comment est-ce que vous partagez ce constat ? Comment vous l'expliqueriez, Florent Coste ?
Alors en fait, il y a clairement là en ce moment une conjoncture éditoriale, un faisceau de publications qui convergent véritablement vers cette question de la politique de la littérature ou d'une littérature politique. Ça a été l'occasion de faire exploser un certain nombre de questions sur la portée, les effets politiques de la littérature, sur le fait possible que la littérature se dénature à faire trop de politique, à être une littérature qui serait trop à thèse, trop militante, trop engagée. Ça a été l'occasion aussi de poser des questions vraiment essentielles, de savoir si la littérature est politique parce qu'elle a un contenu politique, si elle parle de problèmes politiques, ou si, au contraire, elle fait de la politique en travaillant des formes, en menant un travail de l'écriture. Donc, il y avait un faisceau de questions qui était imposant, noueux, et qui méritait vraiment un travail de clarification. Et donc, ce débat-là, il a eu lieu en fin d'année dernière, en début à la rentrée de janvier. C'est un débat extrêmement intéressant, mais qui supposait effectivement de marquer aussi un certain nombre de plis, de clivages, de lignes entre un certain nombre d'auteurs et d'autrices. Et ça, c'est un point qui est vraiment essentiel. Après, on peut remonter un tout petit peu dans le temps, et c'est une question qui n'est pas tout à fait récente. Elle remonte au moins, je pense, je ne sais pas ce qu'en penserait Lise, mais une bonne quinzaine d'années au moins. Je crois que dès le milieu des années 2000, cette question des pouvoirs de la littérature s'est vraiment imposée. Et pourtant, on n'est pas tout à fait encore au clair sur ce sujet-là. Et donc, il y avait un enjeu peut-être à s'interroger sur la contribution de la théorie à ce débat-là.
Lise Wajmann, vous qui aviez donc publié en 2018 dans la revue du Crieur un article qui s'interrogeait déjà sur ces plis et la manière de les déplier.
Oui, alors en effet, la conjonction éditoriale est frappante. Et donc, ce qu'on peut dire à minima, c'est qu'aujourd'hui, c'est une revendication des écrivains. C'est une question pour les écrivains en ce moment que de savoir, d'articuler les rapports entre littérature et politique. Pourquoi est-ce que la question de la puissance et de l'impuissance de la littérature redevient centrale ? On peut se dire peut-être parce qu'on est pris quand même très très vigoureusement dans une guerre culturelle. On le sait, il suffit de penser aux réactions de l'extrême droite face à la possibilité qu'Aya Nakamura chante aux Jeux Olympiques. À ce titre, la position des écrivains, elle est cousine, voisine de celle de chanteurs ou d'autres formes artistiques. Par ailleurs, que la littérature produise des choses dans le réel, ça n'est pas un fantasme. C'était l'argument de Joseph Andras, donc dans son livre qui vient de paraître là avec Autarchie, littérature et révolution, il rappelle qu'on n'a pas de mal à voir que la littérature fait de l'effet quand c'est du côté des fascistes. Le grand remplacement, par exemple, c'est d'abord la formule d'un écrivain, Renaud Camus. Donc on voit bien, on est obligé de se poser la question parce que, comme le dit Florent Coste à propos de la théorie littéraire, mais plus largement de la littérature, quand on ne se pose pas la question de son propre engagement, quand on ne se pose pas la question de la politique, quand on fait de la théorie ou quand on fait de la littérature, c'est qu'en fait, on ne veut pas expliciter son cadre idéologique et qu'on consent à l'ordre établi. C'est le point de départ de votre essai.
Oui, exactement. Pour moi, l'un des problèmes est que on a cru faire ou parler de la littérature en théoricien sans s'interroger ou sans se positionner ou sans expliciter les coordonnées politiques dans lesquelles on se trouvait. Et en fait, ça a produit, je crois, une sorte de geste théorique un peu libéral, dont je crois qu'on a une assez bonne incarnation avec un éminent professeur comme Antoine Compagnon, qui avait écrit à la fin des années 90 un livre qui s'appelle « Le démon de la théorie ». Et de ce point de vue-là, il est très important, je crois, de effectivement déplier toutes ces coordonnées-là, de les marquer pour savoir d'où l'on parle, comment on se situe et comment le théoricien de la littérature, donc celui qui produit un discours alors soit savant, soit général sur la littérature, se positionne par rapport au champ littéraire, par rapport à tous les lecteurs, à la communauté des lecteurs. Et donc, de ce point de vue-là, il est à mes yeux important d'expliciter ce que c'est qu'une politique possible de la littérature, d'accord ? Comme le dit Rancière, une politique de la littérature, ce n'est pas la politique des écrivains. C'est-à-dire, là, bon, ça, c'est un point extrêmement important.
Oui, alors, pour préciser, hein, je sais que là, je vous demande un peu peut-être des choses basiques, mais
non,
une politique
important.
De la littérature, c'est quand même assez difficile à définir, mais ça a quand même l'avantage de dire, attention, la politique de la littérature, ce n'est pas simplement la manière dont s'engagent ou prennent la parole les écrivains.
C'est pas une thématique. Voilà. Et
c'est ni une opinion, c'est ni tout à fait une thèse, c'est pas savoir ce que vote tel ou tel auteur ou autrice. Le fait que Annie Ernaux défile aux côtés de la France insoumise, ce n'est pas la question fondamentale. La question, c'est quels sont effectivement les effets que cette littérature fait politiquement à la communauté des lecteurs et quel est le niveau d'action qu'elle peut produire sur ses lecteurs.
Donc c'est très différent. C'est-à-dire que, par exemple, Nicolas Mathieu peut à la fois protester contre Macron pendant la réforme des retraites et maintenant être marié à une ultra-riche qui fait de... pas marié, j'exagère. En compagnie d'une ultra-riche qui fait de l'évasion fiscale, c'est pas grave.
C'est pas grave, mais c'est que là, il y a effectivement un hiatus ou une dissonance qui est un tout petit peu problématique. D'autant, je crois que la princesse en question organise une sorte de cercle de lecture qui a des connexions avec Chanel, je crois. Donc, on est vraiment là, connecté à l'industrie du luxe. Bon, c'est effectivement un tout petit peu bizarre quand...
Mais ça relève de la politique des écrivains, pas de la politique de la littérature.
Et ensuite, donc, la politique de la littérature mérite aussi d'être articulée à, je crois, une politique de la théorie, c'est-à-dire quelles sont les conséquences politiques du geste théorique et de la manière dont on pense intellectuellement la littérature. Voilà.
Et c'est le point de départ du coup de votre livre. À quoi ressemble une théorie littéraire dans un contexte qui a été longtemps celui d'un contexte d'hégémonie néolibérale ?
Ouais.
C'est comme ça que vous le qualifiez.
Et une théorie qui ne se laisserait pas faire, enfin qui ne se laisserait pas porter, disons, par cette ambiance, ce climat politique et idéologique qui a tendance à mettre, disons, le champ de la culture dans des marges lointaine et qui aurait en plus tendance à violenter au fond quand même les productions intellectuelles, littéraires, artistiques. Le néolibéralisme, de ce point de vue-là, a un rôle vraiment délétère, disons, sur les productions culturelles.
Mais alors, c'est là que je pense qu'il faut préciser tout de suite, parce que vous le dites bien, la littérature n'est pas un monde autonome, perché dans le ciel des idées, et vous écrivez « Aucun postulat ne lui garantira quelque forme d'immunité contre les assauts du marché. Pour autant, elle n'a pas dit son dernier mot, en particulier si une théorie littéraire vient la soutenir. » Alors, double question, quelle théorie littéraire peut venir la soutenir, et au contraire, quelle théorie littéraire pourrait l'enfoncer ou du moins la circonscrire dans ce champ que vous décrivez des assauts du marché. Et en même temps, je rajoute une deuxième question. C'est vrai qu'on se dit que, bien sûr, il y a une littérature commerciale, mais que le champ est suffisamment vaste pour qu'il y ait toute une littérature qui ne soit pas affectée par les assauts du marché.
En fait, très simplement, on peut dire qu'il faudrait, à mes yeux, qu'une théorie littéraire fasse une hypothèse forte sur la nature du néolibéralisme. C'est-à-dire qu'elle est une philosophie politique derrière elle qui qualifie exactement ce qui nous arrive en termes de régime et en termes de mode de gouvernement. Donc ça, c'est un point essentiel. Le néolibéralisme, c'est non seulement une certaine économie, mais c'est aussi un mode de gouvernement politique qui est autoritaire. Et ça a été magnifiquement explicité par quelqu'un comme Grégoire Chamaillou, c'est un libéralisme autoritaire. Et il y a eu plein de recherches sur ce sujet qui sont très importantes. Je crois que la théorie littéraire doit se positionner là-dessus et doit avoir une hypothèse explicite. La deuxième chose, c'est que effectivement, il faut essayer de penser le rapport entre la littérature et le marché et la manière dont elle y est exposée et la manière qu'elle a de pouvoir y résister. Évidemment, il y a beaucoup de production commerciale. Évidemment, il y a un monstre tentaculaire qui s'appelle Amazon qui ravage toute la chaîne du livre, des modes de lecture jusqu'aux modes de circulation, de diffusion, d'édition. Donc ça, c'est des choses qui sont incontestables et qu'on peut très facilement constater. En revanche, la littérature ne doit pas se cacher derrière un rêve d'autonomie ou d'immunité. Elle doit donc affronter véritablement son inscription, son ancrage dans la chaîne du livre, dans le milieu économique qui l'a fait vivre. Et donc ça, je crois que c'est un point important que j'essaie de défendre dans le livre. C'est pas simplement un livre qui fait une sorte de survol ou un catalogage ou un recensement de toutes les théories littéraires. J'en suis pas capable et c'est pas du tout l'objet de ce livre. En revanche, j'essaie de voir quels sont les théoriciens ou les théoriciennes de la littérature qui ont des hypothèses économiques intéressantes et discutables. Et de voir donc comment on tient un discours sur l'économie de la littérature quand on est un théoricien de la littérature.
Et dans ce cadre, Florent Coste, au fond, vous vous distinguez de, on va dire, trois grands types. Mmh. Hein, je vais vraiment y aller à l'âche, mais livre est quand même assez exigeant pour qui ne connaît pas bien le champ de la théorie littéraire. Vous vous distinguez, il me semble, de trois grandes tendances. Une tendance qui, à la Antoine Compagnon, fait ce que vous appelez, alors c'est un jeu de mots qui passe moins à l'oral qu'à l'écrit, de la théorie, c'est-à-dire écrit L'apostrophe, c'est-à-dire qui, au fond, éloigne, refoule l'idée qu'il y ait besoin d'une théorie, que les textes n'ont pas besoin d'être soutenus par des formes de théorie littéraire.
Pour en appeler au bon sens.
Une deuxième forme qui est celle notamment d'Alexandre Geffen, qui voit dans la littérature, au fond qui est agnostique, vous le dites, sur les pouvoirs de la littérature, on ne sait pas. Ouais, c'est vrai qu'on peut, on peut comprendre cette position. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui se racontent aussi des choses sur la puissance de la littérature, dont on peut se demander un peu où elle est à part sa dimension déclamatrice. Mmh. Et inversement, et c'est intéressant parce que c'est quelqu'un comme Svetlana Todorova qui a été quand même un des passeurs, des formalistes russes, donc au fond d'une analyse littéraire les plus difficiles parfois, et qui dit aujourd'hui au fond, le problème c'est que la littérature, à force de théorie, a perdu le rapport au réel. Ouais. Et ça, j'ai l'impression que voilà, ça c'est les trois points de fuite dont vous voulez vous démarquer.
Oui, alors du point de vue de Compagnon, effectivement c'est une sorte de retour au sens commun, c'est-à-dire en fait un retour à la critique, c'est-à-dire un rapport aux œuvres en particulier, aux œuvres particulières. Bon, ça c'est un point important. Et donc une sorte de mise à distance de l'héritage de ses maîtres, au fond, de la théorie des années 60-70. Du côté d'Alexandre Geffen, donc, qui a écrit...
Donc il voit un peu la littérature comme un moment de réparation et de consolation, pour lire très brièvement des êtres.
Alors il a écrit deux essais extrêmement importants, Réparer le monde et puis L'idée de littérature, donc, qui sont sortis chez José Corti. On a beaucoup discuté de ce paradigme de la consolation ou de la réparation de la littérature. Et effectivement, on ne sait pas très bien ce qu'il en pense lui-même. Et c'est l'une des objections que je voudrais lui faire dans ce livre, c'est que justement, j'aimerais bien qu'il se positionne sur ce sujet-là et qu'il ait une position critique, qu'il ait une position explicitement critique sur le sujet. Et notamment, en réalité, ce modèle de la littérature qui console, qui répare, qui cajole, qui câline, qui caresse, qui met des pansements sur les bobos de la vie, c'est une conception de la littérature qui, à mes yeux, refoule complètement la possibilité d'une imagination politique, d'une imagination utopique, si vous voulez. Donc, au fond, on ne peut pas se projeter en avant. On ne peut que réparer les dégâts que
oui,
le monde nous
a... Oui, critique que déjà l'écrivaine Nathalie Quintal lui avait adressée en disant, au fond, s'en tenir à réparer, c'est viser au mieux un retour à un état antérieur et non
Exactement.
Pas un futur utopique.
Exactement.
En gros, c'est une littérature réformiste contre une littérature révolutionnaire, on peut dire ça ?
Alors, en tout cas, un réformisme qui touche à la réalité, marginalement. Après, la question d'une portée révolutionnaire de la littérature, ça fait rêver, mais là aussi, c'est très important, et Joseph l'a dit dans sa question, c'est très important de ne pas se raconter d'histoire. Et là, il y a une ligne de crête à tenir, c'est donner des pouvoirs à la littérature qui ne soient pas délirants, qui ne soit pas mystificateur, qui ne repose pas sur des mythologies. Bon, donc la littérature comme chamboulement de l'existence, chamboulement du monde, de la vie, de la société. Bon, et en même temps, des pouvoirs qui ne soient pas non plus indigents et qui ne soient pas dérisoires. Et il faut trouver précisément le juste milieu de ce point de vue-là.
Et c'est, on peut en venir peut-être au titre de votre livre, L'ordinaire de la littérature. Au fond, ce sur quoi vous concluez, c'est l'importance de faire un geste déflationniste. Qui a quelque chose, écrivez-vous, de radical et de libérateur. Alors, donc, c'est cette déflation qu'il faut opérer. Aujourd'hui, c'est ça qui vous...
En quoi ce serait plus, pour prolonger la question de Lise Wajmann, plus révolutionnaire que peut-être des grandes annonces sur littérature et révolution, pour reprendre le titre un peu survendu, d'ailleurs, du livre de Kaoutar Archi et Joseph Andras.
Je ne me prononcerai pas sur ce sujet, mais en fait, là aussi, il faut que... Les politiques de la littérature, si vous voulez, c'est aussi un désordre de grandeur. De quoi est capable la littérature dans notre société et dans notre monde. Bon. Et donc, c'est généralement l'occasion de charrier des mythologies et des croyances. Et donc, dans le champ littéraire, il faut bien le dire, là aussi c'est une expression de Nathalie Quintane, je crois, dans les années 10, il y a des croyants et il y a des pratiquants. Et des fois, je crois qu'il faut avoir un angle d'attaque un peu critique, un peu déflationniste, plus qu'agnostique athée sur les conceptions et les croyances dans la littérature. Voilà. Donc il y a quelque chose comme une petite religion de la littérature. C'est une vieille histoire, hein. J'en parle un peu dans le livre, mais il y a une ambiance de religiosité, si vous voulez, dans le champ littéraire, qui produit des attitudes un peu révérencieuses, de componction, d'adoration ou de fétichisme. Et ça, il faut précisément aussi le dégonfler. Voilà, c'est ça le déflationnisme en question.
L'esprit critique. Mediapart.
Deux questions de fond avant que vous continuiez la discussion. Non, mais une que je vous adresse à vous, Lise Wajmann, parce que Florent Coste ne pourrait pas répondre, parce qu'au fond, ça s'apprête un peu la question fondamentale de son livre, et j'imagine que ce n'est pas le rôle que je vais vous faire jouer. Mais pourquoi est-ce qu'il serait nécessaire, au fond, d'avoir une théorie littéraire pour soutenir ce qu'on attend de la littérature? Est-ce que c'est ça le propos principal du texte de Florent Coste, qui n'est pas naïf sur le fait que aujourd'hui la simple idée de théorie littéraire puisse provoquer surtout des idées de bâillement dans les amphis de fac? Donc pourquoi, au fond, on a besoin non seulement des pouvoirs de la littérature, mais des pouvoirs de la théorie qui la soutiennent, de votre point de vue?
Alors d'abord, la première raison, c'est celle que donne Florent Coste au début de son livre. Quand on ne fait pas de théorie littéraire, c'est qu'en fait, on masque son cadre idéologique. Et puis d'autre part, mais je répondrai aussi en reprenant un autre argument fort de cet essai, qui est, en gros, il s'agit aussi de refuser cette division surplombante entre, d'un côté, ce qui ferait de la critique d'un texte, voilà, du côté des cols bleus, quoi, des petites mains ouvrières, et le surplomb de la théorie du côté des cols blancs. Et donc il y a cette métaphore autour de l'idée qu'il faut mettre les mains dans le cambouis, parce qu'en fait, la théorie littéraire, elle est partout. Et quand elle n'est pas explicite, c'est qu'elle est implicite, mais elle est quand même présente là. C'est-à-dire qu'au fond, on a chacun notre, même si on est athée, on a chacun notre petite religion tacite. Ouais. Et donc, il s'agit de l'expliciter.
Mm-hmm. Oui, c'est cette question de la division du travail et du travail.
C'est le travail entre le simple. Expliquez-moi qui sont vraiment les acteurs de cette division du travail.
Il y a une conception, disons, un peu schématique et pyramidale, disons, du rapport au texte, qui serait le lecteur ordinaire ou le lecteur savant ou le lecteur critique. Et puis, au sommet de cette pyramide, il y aurait le théoricien qui tiendrait un discours général. J'ai plutôt envie de défendre un repositionnement de la théorie à hauteur des lecteurs ordinaires, des lecteurs universitaires, des lecteurs savants, des lecteurs critiques, enfin... Il y en a beaucoup.
Je veux bien, mais juste une question, c'est que votre texte prend pas, ce qui est à la mode en ce moment, la New Romance, vous êtes sur des textes assez confidentiels et assez exigeants.
Oui, mais il n'y a aucun problème à faire de la théorie littéraire sur les fanfictions, par exemple. Et c'est vraiment un sujet hyper intéressant. Ce n'est pas mon sujet en particulier, il y a des gens qui font ça très bien et bien mieux que moi. Mais bien sûr, il faut, de toute façon, l'ordinaire de la littérature, c'est aussi ça, c'est l'ordinaire de la lecture de la littérature. Donc il faut évidemment prendre en compte tous les lecteurs. Il y a un parti pris théorique dans la manière dont on conçoit son lecteur idéal. Si c'est un lecteur posé dans sa chambre ou dans son bureau en train de lire calmement des œuvres canoniques bon, bah, on a un lecteur qui est facilement imaginé par Antoine Compagnon, dans un cadre humaniste, libéral, ou dans un rapport très individuel, très silencieux, très caméral à la littérature. Mais il y a plein d'autres manières de lire. Donc ça, il faut évidemment qu'une théorie prenne en compte ça, et toute la démocratie des communautés de lecteurs. Ça, c'est évident.
Alors, je vous entends donc sur ce qu'on pourrait résumer à très grands traits aussi, à éviter une théorie savante versus une lecture profane, mais c'est sans doute plus compliqué que ça. Mais ça me pose une autre question assez centrale que vous posez vous-même à la fin du livre, donc je me permets de vous la poser. Vous dites qu'au fond, la littérature est un des langages institutionnels de la société, qu'elle n'en est pas forcément le plus central ni le plus puissant, mais qu'en revanche, comme le langage est à la fois l'arme de la domination et l'instrument de l'émancipation, elle est assez bien placée pour convertir l'une en l'autre. Est-ce que vous pouvez me donner vraiment des exemples concrets d'une conversion de cette domination à l'émancipation à travers la langue et l'écriture ?
Alors, l'idée que je défends là dans ces dernières pages, c'est l'idée que la littérature est un des espaces de discours où on accroît notre réflexivité dans la langue et dans le langage. On se donne des libertés de mettre à distance, de critiquer les langages qu'on subit. Alors, je donne un exemple qui a été beaucoup discuté dernièrement, mais la manière dont, par exemple, Sandra Lucbert, dans toutes ses productions sur le néolibéralisme, sur le procès France Télécom, construit un rapport critique à la langue néolibérale, ça, c'est un très bon exemple, si vous voulez, d'une manière que la littérature a de nous donner des pouvoirs par rapport à une langue qui nous aliène. Voilà. Et l'aliénation linguistique est une vraie question que la théorie littéraire doit là aussi, affronter. Il y a plein d'autres exemples, peut-être un peu plus confidentiels, mais un ABC de la barbarie de Jacques-Henri Michaud, la manière aussi, par exemple, qu'un artiste activiste mexicain a utilisé un article de la Constitution mexicaine qui s'appelle Eugenio Ticelli, un article de la Constitution mexicaine qui parle des terres dans le Mexique et la manière dont en fait le néolibéralisme phagocyte en fait les territoires petit à petit mexicains. Il crée une interface extrêmement intéressante qui montre que la langue anglaise américaine du néolibéralisme empiète petit à petit et mort sur ces libertés qui étaient garanties dans la Constitution mexicaine. Je trouve que c'est un assez bon exemple d'une œuvre d'art, alors, ou poétique, qui exemplifie des rapports de domination linguistique. Et là, la littérature ou l'art nous permet justement de nous donner des marges de manœuvre ou du recul et nous donne des armes, précisément, pour lutter contre cela.
Vous auriez d'autres exemples, Lise ?
Non, mais parce que c'est précisément en fait ce dont essaient de s'emparer les différents écrivains qui ont contribué donc à ces publications qui sont parues cet hiver 2024. C'est-à-dire que, enfin, on peut donner des exemples très très simples. Hein. On entend bien dans la langue que c'est pas la même chose de dire d'une personne c'est un migrant, c'est un exilé ou c'est un grand remplaçant. Et minimalement, enfin, ce sur quoi je crois ces écrivains s'entendaient, c'est que ce qu'ils essayent de faire, c'est d'opérer un déplacement qui nous décolle de cette langue qui nous envahit. Enfin, on s'est tous entendus reprendre en fait un vocabulaire chargé d'idéologie sans même s'en rendre compte, et donc nous remettre à distance de ça, nous faire entendre une autre langue, c'est un travail absolument essentiel.
Mais alors, est-ce que je déforme complètement l'article que vous aviez publié sur ces quatre ouvrages en disant qu'on avait l'impression à la fois de comprendre le programme, d'avoir quelques exemples, mais de ne pas voir non plus tout à fait la réalisation de ce que ça pouvait engendrer ?
Alors, c'était peut-être pas tout à fait l'objet de ces textes, parce que justement, c'était des textes de plutôt programmatiques. Et puis, par ailleurs, bon, enfin, est-ce qu'on peut citer ici une ancienne collaboratrice, Louisa Yousfi, qui, elle, tente donc dans sa contribution à Contre la littérature politique, vraiment une mise en œuvre d'un déplacement dans le discours qui se voit même visuellement. Enfin, c'est un texte qui se construit en contrepoint, c'est un très beau texte par ailleurs. Mais c'était, au fond, ce que ces écrivains font là, c'est ils prennent tous un moment un peu de recul en essayant d'articuler, de penser leur pratique et leur position, parfois même en conjuguant les deux. Le dernier texte de Sandra Lucbert, Des faire voir, elle fait s'alterner des textes programmatiques et des textes plus, enfin, qu'elle qualifie elle-même de littéraires.
Oui, tout à fait. Eh bien, là, on a vraiment un très bon exemple, je crois, d'une prise de conscience que non seulement le champ littéraire et le champ de la théorie littéraire ont besoin de formuler et de se positionner sur des hypothèses politiques, mais aussi d'avoir une théorie de la langue. Voilà, et une théorie politique de la langue. Et de ce point de vue-là, tout ce qui a été fait très récemment par Jean-Jacques Lecercle, vous le citiez en fait indirectement en me citant, la question de l'aliénation et de l'émancipation, c'est du Jean-Jacques Lecercle. C'est un très bon moyen, je crois, aussi d'avoir une théorie politique de la langue et de la littérature en même temps. Et c'est vrai, aussi bien Louisa que Sandra, de ce point de vue-là, ont un positionnement...
Donc Louisa Yousfi et Sandra Lucbert, pour les gens qui ne se veulent pas complètement abonnés à Amsterdam et à La Fabrique.
L'esprit critique. Mediapart.
Théorie politique de la langue, c'est à la fois une belle phrase. Vous vous y mettez quoi, Lise Wajmann? Parce que moi, c'est un peu, je vous avoue que voilà, des fois en lecteur non complètement informé de cette théorie littéraire, ce qui me manque un peu, c'est, je vois bien l'idée, mais je me demande qu'est-ce que ça peut donner comme application concrète au-delà de cercles intéressants, mais qui demeurent un peu marginaux, même si on sait bien que une société se comprend à partir de ses marges.
Théorie politique de la langue, je ne sais pas si je saurais développer comme ça abruptement une théorie, puis c'est plutôt Florent Coste qui l'a élaborée. Mais en tout cas, je crois que au fond, la littérature de ce début de XXIe siècle rêve encore, je crois, un modèle qui a plané sur une partie du XIXe siècle, on peut le dire comme ça, qui est, finalement, il y a des gens qui se sont retrouvés sur les barricades, c'est une référence que brandit beaucoup Nathalie Quintane, il y a des gens qui se sont retrouvés sur les barricades en 48 parce qu'ils avaient lu Les Mystères de Paris de Gensu. C'est-à-dire l'idée qu'il ne faut pas se voiler la face en pensant à un pouvoir de la littérature, ce qui serait malhonnête, mais qu'en fait, quand même, il y a la construction d'imaginaires de type utopique, par exemple, il y a la construction d'une parole critique, qui peut avoir des effets politiques, des effets dans nos vies.
Il faut réussir à effectivement avoir une théorie minutieuse, réaliste, au sens très ordinaire du terme, pragmatique, de ce que la littérature nous fait faire, ou nous fait écrire, ou nous fait parler. Qu'il ne soit pas simplement une théorie du passage à l'acte, quoi. Et donc là, c'est une grande mythologie là aussi contre laquelle il faut essayer de lutter, parce qu'on se racontera des histoires et on aura en fait au fond une sorte de conception idéaliste de la littérature, hein, des mots comme ça qui vous font passer à l'acte. C'est vraiment l'idéalisme au sens philosophique le plus ordinaire. Il faut essayer au contraire de comprendre comment la lecture d'un livre au sein d'une communauté vous donne des ressources pour écrire, pour lire, pour analyser, pour vous positionner, pour rentrer dans un maillage social différent et éventuellement dans une communauté politique.
Et c'est parce que je pense que c'est une autre question qui traverse, mais de manière des fois un peu souterraine, votre livre. Dans ce cas, c'est exactement pareil, un livre de sciences sociales, un essai et un livre dit de littérature. Parce que là, ce que vous décrivez, au fond, quelque chose qui ne nous entraîne pas directement dans un passage à l'acte, un peu dans le côté romantique, pour avoir l'effet directement de la langue, mais qui s'inscrit dans une communauté, qui balise des choses, qui rappelle des points, qui choisit les bons mots. Alors, dans ce cas, il n'y a plus aucune différence entre littérature et sciences sociales.
Je dirais pas ça, parce que précisément, un certain nombre de chercheurs travaillent autour de cette frontière-là. Je pense à Yvan Jablonka.
De chercheurs et d'écrivains, d'ailleurs.
Chercheurs et d'écrivains, d'historiens et d'écrivains. Bon, mais... En réalité, il y a une chose que la littérature a en plus que les sciences sociales n'ont pas, c'est une sorte de liberté créatrice et elle n'a pas une déontologie scientifique qui est exigée à l'intérieur d'une communauté savante. Et il n'y a pas des règles disciplinaires comme il y en a à l'intérieur du champ de la sociologie, de l'histoire ou que sais-je encore. Et de ce point de vue-là, je dirais que la littérature est beaucoup plus indisciplinée, potentiellement beaucoup plus anarchique par rapport à ses règles et beaucoup plus inventive et créative.
Non, je repense à votre question sur la politique de la langue en me disant qu'en fait, il y a un exemple très simple dont on a tous fait l'expérience, qui est celui du slogan et qui est par ailleurs une question qui a été très travaillée aussi ces derniers temps dans les champs un peu académiques. Mais il suffit d'avoir été une seule fois dans sa vie dans une manifestation ou d'avoir, adolescent, voulu graffiter quelques formules sur les murs pour le savoir. C'est que le slogan, ça nous entraîne et que donc, à la fois, ça fait jaillir une revendication qu'on ne s'était peut-être pas formulée dans ces termes-là, mais que ça fait aussi jaillir du commun, du collectif.
Oui, ça beaucoup, que ce soit au moment de la travail ou des gilets jaunes, il y a eu une inventivité des slogans qui a contribué au dynamisme.
On en a même fait des recueils, etc. Et donc là, Très concrètement, on voit bien que bon, il s'agit pas de parler de choses super compliquées, quoi. Il s'agit de parler de ce qui nous affecte comme sujet dans nos vies ordinaires.
Et justement, on a vu là, c'est un très bon exemple, des acteurs, des manifestants, des manifestantes se débattre dans un ordre de la langue et de créer du jeu, créer. Je crois que il y a évidemment une différence entre un slogan sur une pancarte en carton et un roman qui serait dit politique, mais en fait, il y a aussi une continuité. Il faut penser aussi ces continuités-là. Voilà.
Oui, c'est vrai que certains slogans pouvaient sembler sortis de certains textes contemporains.
Par ailleurs, bien sûr.
Et en même temps, on pourrait dire, pour un slogan, on n'a pas besoin de théorie.
Pour un slogan, on n'a pas besoin de théorie. Je ne sais pas si les slogans ont besoin de théorie. Je crois qu'il y en a. Il y a des chercheurs qui travaillent dessus d'une manière très intéressante, à la charnière entre les études littéraires et la sociologie. Il y a par exemple tout un champ autour des littératures sauvages, sur la manière dont on sait ces écritures éphémères, fragiles, hors des canaux institutionnels. Il y a un chercheur belge qui s'appelle Denis Saint-Amand qui a étudié ça très bien et qui continue d'étudier ça, qui en a fait un observatoire. C'est un vrai enjeu, je crois, parce que là aussi, ça nous permet de penser des continuités et puis une activité graphique, linguistique, langagière, ordinaire, et qui fait que le créateur ou l'auteur n'est au fond pas un statut privilégié, quoi.
Et juste, je me retourne vers vous, Lise Wajmann, parce qu'on avait fait ici récemment une émission sur les littératures des réels, où on parlait notamment du dernier essai qui est sans doute pas son meilleur, d'Yvan Jablonka. Est-ce que ce rapport entre sciences sociales et littérature, depuis votre point de vue à la fois de l'université, depuis le fait de chroniquer l'actualité littéraire d'un journal qui s'intéresse beaucoup aux sciences sociales, vous avez l'impression qu'on est dans quel moment de ça? Parce que on a effectivement, si on lit Antoine Compagnon, on a l'impression qu'il y a une forme de dédain, au fond, pour une partie des sciences sociales. Et en même temps, il se trouve que quasiment toutes les studies, que ce soit les gender studies, les racial studies, ont été souvent fondées dans les départements littéraires, mais avec les apports des sciences sociales. Enfin, ça s'est renouvelé à partir d'une fusion, alors que certains, aujourd'hui, trouvent un peu trop formaliste, des fois, ou un peu trop répétitive. Mais donc, vaste question, je sais, mais bon,
ouais, alors ça
c'est pour conclure.
Non, concrètement, en effet, ça nous vient, ces théories-là, elles nous viennent des départements de littérature comparée américains. Mais pour répondre plus concrètement à votre question, je dirais que il y a eu tout d'un, enfin, les écrivains se sont sentis écrivaines investis d'une tâche, pour le meilleur et pour le pire, je dirais. Pour le meilleur, c'est-à-dire reprendre des dispositifs qui sont en effet ceux des sciences sociales, par exemple ceux de l'enquête, ceux de l'immersion, d'aller chercher des ressources documentaires pour contribuer à notre rapport au réel. Et pour le pire, c'est la raison pour laquelle le livre, ce collectif d'écrivains qui est paru à la Fabrique s'appelle « Contre la littérature politique ». Pour le pire, c'est-à-dire tout d'un coup brandir l'argument « moi, je fais de la politique » pour, comme le disait Olivier Neveu à propos du théâtre, en fait, nous vendre des injonctions de l'idéologie dominante et se couler très bien dans le marché. Mais j'ai le sentiment que ce moment-là, en fait, qui consiste à rebrancher, à revendiquer le branchement, parce qu'en fait, ça a toujours été le cas, mais de la littérature sur le réel, cette revendication-là, on est peut-être en train de passer à autre chose. C'est, à ce sujet, Nathalie Quintane, elle est très vindicative. Elle dit, mais au fond, aujourd'hui, ce qu'il faut réinvestir, c'est une littérature de type utopique et pas juste une littérature qui redouble ce qui existe déjà, mais une littérature qui nous emmène ailleurs.
Là, on touche à un vrai problème et il faut reconnaître à Nathalie Quintane une acuité et une lucidité tout à fait remarquables sur la question. Si on considère que la littérature n'est qu'une fenêtre ouverte sur le réel, là aussi, on tombe dans un travers qu'on pourrait dire un peu...
Y compris un réel qui est opposé à la domination de la langue médiatique ou capitalistique.
Tout à fait. Mais de toute façon, ça ne veut pas dire grand-chose de toucher le réel. Enfin, ça n'a pas grand sens. Ce serait quoi un réel qui serait saisi sans le langage? Voilà, très simplement. Ça, c'est un acquis des théories des années 60-70, ce qu'on a appelé le tournant linguistique. Mais c'est un point extrêmement important sur lequel on doit... on ne doit pas transiger, auquel on ne doit pas renoncer. Il ne faut surtout pas jeter le bébé avec l'eau du bain. On doit avoir, je crois, une conception où la littérature n'est pas simplement qu'une affaire de représentation, de, comme on dit, de mimésis, quoi, de redoublement du réel. En réalité, on met, quand on écrit, on met le pied dans la porte. Voilà. Et ça pose donc la question d'une action de la littérature. Dire ça, c'est encore fondamental parce que
Mais vous voyez que c'est difficile. Là, on touche à ce qui est à la fois l'intérêt et le côté un peu paradoxal de votre proposition. C'est-à-dire qu'on n'est ni pure représentation, ni pure action. Comment est-ce qu'on fait sans être dans quelque chose de centriste?
Alors, comme je dis, en théorie, le centrisme n'est ni de gauche ni de gauche. Donc, effectivement, mais c'est comme en politique. Il est très clair qu'il faut, à mon avis, sortir d'un modèle, disons, de la littérature comme représentation et d'imaginer la littérature comme un discours parmi d'autres, à hauteur ou à côté des sciences sociales, qui vient comme un chien dans un jeu de quilles, bousculer les discours ambiants. Et ça, c'est une pratique qui est... c'est un mode d'action, c'est une pratique, et qui peut changer un peu la donne. Voilà. C'est peut-être pas révolutionnaire, ça va pas changer le monde, mais au moins, on aura une sorte d'honnêteté ou de... On sera clair avec sa conscience.
Merci beaucoup à tous les deux. Florent Coste, votre ouvrage « L'ordinaire de la littérature, que peut encore la théorie littéraire » est paru au début du mois d'avril aux éditions La Fabrique. L'Esprit Critique est un podcast proposé par Joseph Ronfavreux pour Mediapart, enregistré dans les studios de Gong et réalisé par Samuel Hirsch et Karen Beune.